le magazine des Nations Unies.
À la une de ce magazine, se focaliser sur les élections présidentielles et législatives de novembre 2016, c'est la position de la communauté internationale. Martin Kobler l'a réaffirmé mercredi à la presse. Le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU en RDC a aussi fait part de sa campagne contre les abus et l'exploitation sexuelle au sein de la MONUSCO. Les détails dans cette édition. À deux semaines de la tenue de la première conférence et l'examen de la Convention sur les armes à sous-munitions, si la RDC pouvait y participer comme un État parti, vœu de la CCIM, campagne congolaise pour interdire les mines. La RDC qui est à la fois affectée et victime de ces armes aux conséquences néfastes. Un responsable de cette structure, partenaire de l'UNMAS, est notre invité. Enfin, l'unité d'appui du système de sécurité existe depuis quelques années au sein de la MONUSCO. Quelle est sa mission? Quelles en sont les composantes et leurs relations ainsi que ses défis dans le processus de sécurisation de la RDC? Autant d'aspects à décrypter dans cette émission avec le chef de la composante question transversale de cette unité.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans ce magazine. Martin Kobler a partagé quelques sujets d'actualité avec la presse le mercredi dernier à Kinshasa. Parmi ces sujets, le processus électoral en République démocratique du Congo et la campagne de sensibilisation contre les abus et l'exploitation sexuelle qu'il a menée auprès du personnel de la MONUSCO, aussi bien civil, militaire que policier. Honoré Misengakalala revient ici sur ces sujets.
Au sujet du processus électoral, Martin Kobler en appelle de tous ses voeux à un calendrier réaliste et faisable, et il précise.
Je ne sais pas si c'est réaliste d'avoir au mois d'octobre des élections locales. Je suis maintenant ce soir en train d'aller à Genève pour une réunion avec les envoyés spéciaux des Grands Lacs. Nous allons discuter ce problème.
Le chef de la MONUSCO invite alors la CENI à prendre ses responsabilités et les forces politiques congolaises à s'activer pour trouver un consensus sur ce calendrier réaliste. Il y a encore du temps, soit 15 mois d'ici novembre 2016, estime-t-il. Cependant, Martin Kobler prévient. Novembre 2016 devrait rester la ligne à ne pas franchir, selon l'entendement de la communauté internationale.
Notre position est très claire. La constitution doit être gardée. Les législatives, les présidentielles doivent prendre place au mois de novembre 2016. Et troisièmement, tout ce qui est entre maintenant et novembre 2016 ne doit pas mettre en danger le date de novembre 2016. Nous n'interférons jamais dans les affaires domestiques du pays, mais nous avons notre position que la Constitution devrait être gardée. Et la Constitution dit très clairement novembre 2016 pour les législatives, les présidentielles.
Quant à la campagne de sensibilisation contre les abus et l'exploitation sexuelle qu'il a menée en 4 jours auprès du personnel de la MONUSCO à Kinshasa, Kisangani, Bunia, Beni, Bukavu et Goma, et ce, à la suite du scandale de quelques casques bleus en République centrafricaine, Martin Kobler explique.
En République centrafricaine, on avait des dizaines de cas pendant une année. Je crois que c'est important de vous dire un cas d'exploitation d'abus sexuels commis par les civils, par les militaires, par les policiers de la MONUSCO ici est un cas de trop. On avait en 2009 aussi 50 cas. En 2014, nous avons eu 13 cas parce que moi-même, avec mes collègues, nous travaillons très très intensivement avec les troupes ici pour empêcher ces cas d'abus et exploitation sexuelle. Nous avons ici dans la mission quelques cas cette année jusqu'au mois d'août, 8 cas seulement. Ce que j'ai appris maintenant pendant mon tour, c'est important de mentionner que les casques bleus des contingents les plus grands n'ont aucun cas d'exploitation d'abus sexuels. Ce sont les Bangladeshis, les Indiens et les Pakistanais. Ce sont les grands contingents.
Les mines et les bombes blessent et tuent. Les mines et les bombes ont fait beaucoup de victimes en RDC. Les mines et les bombes sont de différentes formes, couleurs et tailles. Ne les approchez pas, ne les touchez pas, restez prudents. Votre vie n'a pas de prix. Ne prenez pas de risques inutiles. informer l'autorité la plus proche. Message de l'UNMAS RDC.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
L'unité d'appui à la réforme du système de sécurité RSS au sein de la MONUSCO existe depuis quelques années. Quelle est sa mission ou son mandat? Quelles sont ses composantes? Quel est le niveau de coopération avec les institutions congolaises comme la police, l'armée et la justice? Le magazine des Nations Unies reçoit ce dimanche Louis Moratinos, chef de la composante des questions transversales de RSS. Il répond à toutes ces questions dans cet entretien avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Louis Moratinos, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de la composante des questions transversales de l'unité d'appui à la réforme du secteur de sécurité. Votre unité existe depuis 2000. Quel est son rôle ou sa mission au sein de la MONUSCO?
Tout d'abord, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à l'unité pour la réforme du système de sécurité au sein de la MONUSCO. En effet, cette unité existe déjà depuis un certain nombre d'années. Le mandat qui nous a été conféré par le Conseil de sécurité a dicté un peu le rôle que cette unité a pu jouer au sein de la mission et aussi par rapport à l'appui que nous avons pu apporter au gouvernement de la République démocratique du Congo. Alors le rôle que le mandat actuel par la résolution 2211 et aussi par la résolution 2151 qui porte sur la RSS sorte de directive pour toutes les missions de maintien de la paix, aussi pour les missions politiques des Nations Unies, nous donne un mandat de coordination de bons offices et d'appui justement au processus qu'est la RSS.
Donc vous travaillez en collaboration avec le gouvernement congolais?
Tout à fait.
Alors la réforme de la sécurité, on en parle depuis plusieurs années, comme vous l'avez dit, en République démocratique du Congo, mais elle tarde à prendre ses marques. Pourquoi estimez-vous, Monsieur Louis Moratinos?
Il ne faut pas comprendre donc la RSS comme d'un point de vue programmatique. La réforme du système de sécurité essaye justement d'apporter un appui au niveau institutionnel, au niveau des acteurs de sécurité dans leur ensemble. Et bien évidemment, dans un contexte comme la RDC, c'est un processus qui demande d'avoir une vision à long terme. Bien évidemment, les conflits à l'Est n'ont pas aidé à mettre en place ces changements plus rapidement que nous l'aurions souhaité. Or, la RSS est un processus qui demande de réformer ou de transformer, de moderniser les institutions afin de les rendre professionnelles et de les rendre redevables et dans un cadre d'état de droit. Ceci prend beaucoup plus de temps qu'une simple réforme en termes de formation et d'équipement.
À part les conflits à l'Est, est-ce qu'il y a d'autres pesanteurs qui ne vous ont pas permis aussi d'avancer?
Certaines pesanteurs que les acteurs bilatéraux déplorent toujours, depuis un certain nombre d'années, concernent plutôt l'engagement politique du gouvernement de la RDC. Un engagement qui, pour les acteurs bilatéraux, devrait se traduire, tout d'abord, par une réforme de la fonction publique. Pour justement, là, si on envisage, par exemple, la mise à la retraite d'une partie des fonctionnaires, donc fonctionnaires des agents de sécurité, mais aussi au niveau de tout ce qui est finances publiques. Le budget qui est alloué à la réforme du système de sécurité n'est certes pas suffisant. Si nous regardons la loi de finances 2015, ceci couvre essentiellement et malheureusement que les frais de fonctionnement, mais ne touche pas à tout le processus de réforme qui est si nécessaire en RDC.
Oui, dans ce processus de réforme, il y a quatre composantes, dont l'une est transversale. Est-ce que vous pouvez nous en parler brièvement?
Je vais essayer de peut-être d'utiliser une métaphore. Je fais référence à cette histoire dans un village indien où six sages du village qui étaient nés aveugles, pour la première fois de leur vie, tout d'un coup un jour, il y a tous les enfants qui se mettent à crier et qui appellent les sages pour qu'ils rejoignent la place du village, car il y a un éléphant qui s'est introduit au sein du village et donc ils avaient bien entendu jamais vu un éléphant. Alors vous savez bien que quelqu'un d'aveugle, pour reconnaître la personne ou la chose, il doit toucher pour essayer de voir les traits et d'essayer de se faire une sorte d'image de la personne ou de l'objet qu'il a en face. Donc lorsque l'un des sages touche la jambe de l'éléphant, ils disent non, c'est pas un éléphant, c'est un arbre, un tronc d'arbre. Le corps, il a dit non, c'est un mur, et ainsi de suite. L'oreille, ça c'est plutôt un éventail, la queue c'est plutôt une corde, la trompe ça a une forme d'un serpent. Alors tout ça pour dire que si on réunissait toutes les images que ces hommes sages avaient par le toucher, on pourrait avoir une vue d'ensemble et on pourrait voir l'éléphant dans sa totalité. Donc la réforme du système de de sécurité, il s'agit à peu près de la même chose. La réforme du système de sécurité, on ne peut pas la concevoir uniquement à travers le prisme de la réforme de l'armée, de la justice ou de la police, mais les questions transversales font partie aussi de cette réforme. Bien évidemment, il y a la question des droits de l'homme, de la protection de l'enfant, de l'implication que la société civile doit avoir et même le contrôle parlementaire doit jouer lorsque un processus de RSS est entamé, et l'aspect genre, bien entendu, et l'exemple de la police de proximité qui a été sous forme de pilotage grâce à l'appui de la coopération britannique, ça a été simple, c'était vraiment une approche RSS. Il s'agissait non seulement de former les policiers de formation de base, mais aussi travailler avec les parlementaires pour qu'ils contrôlent un peu la réforme de la police, à travailler avec la société civile pour qu'on puisse créer un partenariat entre les policiers et les citoyens congolais et congolaises qui, justement, devaient vivre avec ces policiers, surtout au niveau local et provincial. Ce que nous souhaitons et ce que souhaitent tous les acteurs bilatéraux, c'est d'appuyer une police ou des acteurs de sécurité qui respectent les droits de l'homme.
Il faut dire que dans ces processus de réforme de la sécurité, il y a beaucoup de défis, et parmi ces défis, vous relevez, vous insistez sur la volonté politique nationale pour la mise en œuvre de la réforme de l'armée, de la police et même de la justice. Quel est à ce jour pour les niveaux des coopérations avec les gouvernements dans quatre domaines que je viens de citer? Il y a l'armée, la police et la justice.
Le niveau de coordination, de collaboration avec nos contreparties nationales, nous vivons un moment d'excellentes relations, que ce soit avec la police nationale congolaise, avec l'inspection générale de la PNC, que ce soit aussi avec cet élan qu'a donné le nouveau ministre de la Justice, notamment à travers les états généraux qu'il a organisés cette année, au niveau pénitentiaire aussi, et au niveau des forces armées, au jour d'aujourd'hui, nous sommes en train d'apporter un appui en termes de primo-formation au niveau de l'état-major des forces des FARDC sur le droit des conflits armés. Donc la collaboration est excellente, et pas seulement uniquement entre la MONUSCO et le gouvernement, mais plus important que ce soit entre les partenaires bilatéraux et le gouvernement de la RDC.
Prenons par exemple la police, quelle est la matérialisation de cette coopération? Est-ce que vous pouvez donner des exemples concrets de cette coopération entre notamment votre unité et la police nationale?
D'accord. Pour la réforme du système de sécurité, notre coopération se base plutôt sur un appui stratégique de conseil. Par exemple, nous avons un officier d'UNPOL qui siège au sein du comité de suivi de réforme de la police, qui appuie donc le secrétaire général, le général LLC, pour justement mener à bien la réforme de la police. Vous savez que le CSRP, c'est l'organe de coordination et de suivi et évaluation de la réforme de la police. Aussi, au niveau du commissariat général, le chef de la composante police, Moussa Diallo, a bien entendu des échanges hebdomadaires avec le coordinateur, le général Kamanga, pour justement veiller à ce que les efforts qu'apportent les bilatéraux se traduisent par une complémentarité afin d'éviter la duplication. En plus de l'appui que la MONUSCO fait dans ce sens stratégique, bien évidemment, il y a notre composante, au niveau de la mission, tout ce qui est UNPOL, sous la direction du Police Commissioner Général Pascal Champion, qui appuie bien évidemment le plus gros sur le terrain, à l'Est, la PNC en termes de formation et d'équipement.
Oui, toute dernière question. La MONUSCO entame son retrait progressif de la RDC. Que pensez-vous de l'avenir de votre programme d'appui à cette réforme de la sécurité en République démocratique du Congo?
Alors vous savez bien que la MONUSCO a entamé ce qu'on appelle une exit strategy, donc la sortie de secours. Ceci, je ne suis pas en mesure de vous dire quand est-ce que la sortie de la MONUSCO aura lieu. Je peux vous dire que je pense que tous les staffs de la MONUSCO seront contents lorsque la mission fermera. Ça voudra dire que la présence d'une mission de mode personne de paix ne sera plus nécessaire en RDC. Mais évidemment, les rôles et les responsabilités que la MONUSCO a au jour d'aujourd'hui seront transférés à des agences des Nations Unies. Donc je pense que nous entamerons petit à petit une phase de développement et d'appui institutionnel beaucoup plus solide et beaucoup plus à long terme, mais ce n'est pas de l'ordre du jour, ce n'est pas demain que cet appui va se réaliser.
Monsieur Louis, nous vous remercions.
Merci.
Quelques nouvelles en bref. 692 millions de dollars, c'est le financement estimé du plan d'action humanitaire pour la RDC en 2015. Mais à ces jours, ce plan n'a reçu que 44% des contributions à son budget. Information que le nouveau coordonnateur de l'action humanitaire en République démocratique du Congo a partagée cette semaine lors de sa visite dans l'est du pays. C'est par Goma, mardi, que M. Mamadou Diallo a entamé cette visite. À la fois des prises de contact et de travail après sa prise de fonction à Kinshasa. À son arrivée au chef-lieu de la province du Nord Kivu, M. Diallo s'est entretenu avec les autorités provinciales sur les préoccupations humanitaires. Restons encore à Goma, où la ville accueille depuis le lundi 24 août, l'exposition photo de la MONUSCO. Manifestation organisée dans le cadre de 15 ans de la présence de cette mission en RDC et de la commémoration des 70 ans des Nations Unies dans le monde. Le chef de la MONUSCO, Martin Kobler, a lui-même assuré le vernissage de cet événement, en présence notamment du vice-gouverneur de la province, Feller Luchi Chimwa. Cette exposition se tiendra jusqu'au ce lundi 30 août. Enfin, un mot sur les réfugiés congolais de la République centrafricaine. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés poursuit l'opération des rapatriements par voie aérienne des réfugiés congolais vivant à Zuam en RCA. Depuis le début de cette opération, le 3 août 2015, 496 Congolais sont déjà rapatriés vers Ango dans le district du Bazouélé en province orientale. Au total, selon le HCR, 628 réfugiés congolais sont concernés par l'opération.
Magazine des Nations Unies, l'invité.
Partenaire de l'UNMAS, service de la lutte anti-mine de l'ONU, la campagne congolaise pour interdire les mines et le Centre congolais de lutte anti-mine ont célébré mardi dernier à Kinshasa le 5e anniversaire de la convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions. La RDC, bien que signataire de cette convention, n'a pas encore parachevé le processus de son adhésion. Notre invité, Francky Miantwala, est le coordonnateur de la CCIM et en même temps expert à handicap international. Francky Miantwala s'entretient avec Honoré Missenga Kalala.
Monsieur Francky Miantwala, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le coordonnateur de la campagne congolaise pour interdire les mines. C'est CIM en sigle. Vous êtes en même temps chargé de projets d'appui aux associations au sein de handicap international.
Tout à fait.
Avec CLAM, le Centre congolais de lutte anti-mine, vous avez célébré mardi dernier le 5e anniversaire de la convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions. D'abord, M. Francky, un mot sur cette convention d'Oslo, son enjeu, ses objectifs.
Merci. La convention d'Oslo sur les armes à sous-munitions est une convention qui a été adoptée à Oslo le 3 décembre 2008. Elle a été ouverte à la signature des États et c'est 2 ans plus tard, précisément le 1er août 2010, que cette convention a pu bénéficier des 40 ratifications des États et donc est entrée en vigueur. Pourquoi une convention interdisant les armes à sous-munitions? Il s'est avéré que les armes à sous-munitions ont des conséquences néfastes et donc il y avait nécessité de pouvoir réserver une réponse appropriée pour faire face au fléau des armes à sous-munitions qui peuvent soit avoir des conséquences néfastes sur le plan socio-économique, c'est des vastes terrains arables qui ne peuvent pas être cultivés, c'est des chemins de l'école qui ne peuvent être empruntés, et ainsi de suite. Au regard de ces conséquences, la communauté internationale a jugé utile de pouvoir mettre sur pied, élaborer, adopter une norme juridique internationale largement contraignante qui interdirait l'emploi, le stockage, les transferts et la production des armes à sous-munitions.
Donc, Monsieur Francky, dans l'armement, il y a des armes à munitions et des armes à sous-munitions. La différence, c'est quoi?
Une arme à sous-munitions est une munition mère qui, dans son fonctionnement, une fois qu'elle est larguée, est appelée à s'ouvrir et à lâcher un certain nombre de sous-munitions. Et ces sous-munitions, une fois lâchées, peuvent avoir un effet de contamination qui peuvent atteindre plusieurs terrains de football. Une arme à sous-munitions est différente, par exemple, d'une mine antipersonnelle, qui, elle, est une arme qui est posée ou placée sous ou sur le sol et appelée à exploser du fait de la présence d'une personne lorsqu'une personne marche dessus. À ne pas confondre non plus avec les armes à feu, tout ce que nous connaissons comme des fusils, etc. Généralement, il y a plusieurs sortes d'armes à sous-munitions. Chez nous, par exemple, au Congo, des ONG qui opèrent sur terrain ont pu découvrir, par exemple, des armes à sous-munitions qu'on appelle Shoab. On a pu trouver des armes qu'on appelle PME1. On a pu trouver des armes à sous-munitions qu'on appelle BLEI-755, BLEI-63. Mais l'important à retenir, c'est que notre pays, par exemple, la RDC, est un pays contaminé par ces armes à sous-munitions.
Oui, venons-en maintenant à la RDC, l'état-lieu des armes à sous-munitions.
Il y a eu une enquête qui a été menée ici au Congo en 2013, qui a été diligenté par les services des Nations Unies de lutte anti-mine, UNMAS, RDC, et les centres congolais de lutte anti-mine. L'enquête avait été menée par des organisations locales, nationales, qui œuvrent dans les provinces affectées par les armes à sous-munitions et les mines antipersonnelles, sous la supervision des ONG internationales comme NPA, MAG, Handicap International et bien d'autres. Et cette enquête a confirmé la présence des armes à sous-munitions dans certaines localités, comme Moba, comme Pweto, comme Lubutu, et ainsi de suite.
Seulement dans le Katanga?
pas seulement dans les Katanga, aussi à Bolomba en Équateur, par exemple, il y a aussi des armes à sous-munitions. Mais il faut préciser que la contamination par armes à sous-munitions est nettement moindre par rapport à la contamination par mine antipersonnelle et reste explosif de guerre.
Oui, la RDC est contaminée par les armes à sous-munitions, même avec une moindre ampleur. Mais comment le pays lutte-t-il face à ce phénomène?
La RDC se positionne face à la problématique des armes à sous-munitions à la fois comme un pays affecté, comme je l'ai dit, mais également comme un pays victime, puisque les armes à sous-munitions qui ont été utilisées l'ont été par des armées étrangères invitées et non invitées. Et donc, il y a de bonnes raisons que la RDC, au regard de cette double statut des pays victimes et des pays affectés, puisse joindre les efforts mondiaux destinés à éradiquer le fléau des armes à sous-munitions. C'est ainsi donc que, conscient de cette situation, le gouvernement de la RDC avait introduit par les biais du ministre de l'Intérieur de l'époque, en 2011, le projet de loi autorisant l'adhésion de la République démocratique du Congo à la Convention sur les armes à sous-munitions. Donc ce projet a été adopté à l'Assemblée nationale au courant de la session de mars 2011 et par le Sénat au courant de la session de septembre 2013. Il y a donc des efforts sur le plan politique pour que la RDC rejoigne les efforts à l'échelle mondiale contre les armes à sous-munitions. Dans l'entretemps, la RDC est un pays signataire de la Convention et il l'a déjà signée en date du 18 mars 2009. Et donc a accepté, ne serait-ce que théoriquement, les dispositions de la Convention et a commencé pour se faire sa mise en œuvre anticipative. Une enquête avait été faite et cette enquête a permis de pouvoir avoir une idée sur la localisation des armes à sous-munitions, j'ai cité des localités, et également sur la taille de la contamination. Grâce à des opérateurs comme MAG, comme NPA, il y a des efforts qui sont produits en termes de destruction des stocks des armes à sous-munitions entre 2011 et 2014.
Pouvez-vous nous dire un mot par rapport à votre partenariat avec notamment UNMAS?
L'UNMAS, c'est le service de lutte antimine des Nations Unies. Pendant un bon nombre d'années, il a joué le rôle d'instance de régulation et de coordination de l'action contre les mines au Congo. Mon organisation a eu le privilège de voir l'UNMAC venir au Congo. À ce titre, nous avons été à côté de l'UNMAC pour participer aux réunions de coordination en tant qu'organisation nationale. Et aux côtés également des autorités congolaises, notamment à l'époque le point focal de lutte antimine et aujourd'hui centre congolais de lutte antimine, afin qu'ensemble nous conjuguions nos efforts pour atteindre l'idéal d'une RDC sans mine, sans armes sous munitions et sans reste explosif de guerre.
Peut-être un mot de la fin par rapport à la mission, la CECIM.
Notre idéal, notre vision est de voir l'humanité entière, et la RDC en particulier, s'est débarrassée de l'impact de la violence armée. La violence armée causée non seulement par la présence des mines antipersonnelles et des armes à sous-munitions, mais également par le commerce illicite des armes et par la prolifération nucléaire. Mais la problématique qui nous occupe particulièrement, celle des armes à sous-munitions, veut que, au stade actuel, la RDC fasse un signal fort. Nous sommes à 2 semaines de la tenue de la première conférence d'examen ou de révision de la Convention sur les armes à sous-munitions. La RDC ira-t-elle à cette conférence comme un État signataire ou bien comme un État parti? Notre vœu le plus cher est que la RDC y aille comme un État parti à cette fameuse convention. Pour cela, nous réitérons notre appel au chef de l'État de promulguer la loi portant adhésion de la RDC à la Convention sur les armes à sous-munitions et de procéder au dépôt expéditif de cet instrument juridique aux Nations Unies afin que la RDC rejoigne effectivement les efforts mondiaux visant à éradiquer les armes à sous-munitions.
Donc ce sont les 2 étapes qui restent pour que la RDC devienne partie à cette convention.
2 étapes, mais on attend qu'elles soient franchies depuis 2 ans.
Monsieur Francky Miantoala, Mwandaj, merci d'avoir répondu à l'invitation de Radio Okapi.
C'est moi qui vous remercie.
Il faut agir vite. Les humanitaires doivent être mobilisés pour créer des conditions normales dans la zone des Béni. Déclaration mercredi dernier à Béniville du représentant spécial adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires en RDC. Mamadou Diallo venait de terminer sa visite dans plusieurs villes et localités en proie à l'insécurité dans le territoire des Béni. Le point dans ce reportage, c'est Papi Mouteba.
Première étape de cette visite, la cité de Ouitcha. Ici, les représentants spéciaux adjoints du secrétaire général général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires a rencontré l'administrateur du territoire de Beni et la société civile locale. Mamadou Diallo s'est ensuite rendu dans la localité de Maïmoya où sont basés depuis 2 semaines maintenant les éléments de la brigade d'intervention de la MONUSCO pour protéger la population civile. À l'étape de Eringeti, Mamadou Diallo a visité les centres de santé de cette localité où plusieurs déplacés de guerre y sont soignés. Pour lui, il faut agir vite et créer les conditions normales dans la zone.
Il n'y a rien à attendre. Je pense qu'on a déjà trop attendu. Je vais mobiliser la famille humanitaire pour venir en aide. Pas seulement en distribuant des rations alimentaires, mais en essayant d'aider les gens à retrouver une vie normale, à créer les conditions pour que les enfants puissent retourner à l'école dès l'ouverture prochaine, à regarder l'approvisionnement en médicaments et en instruments dans les centres de santé. Par exemple, à Eringeti, où on a visité l'hôpital, mais on a un bloc opératoire, mais il n'y a pas d'équipement. Et je vais le faire financer pour qu'on achète le bloc opératoire, mais aussi qu'on achète un lot de médicaments pour que les populations puissent se soigner sans frais.
Signalons que les représentants spéciaux adjoint du secrétaire général des Nations Unies en charge des affaires humanitaires en RDC est accompagné de Richard de Lavalès, responsable de la stabilisation au sein de la MONUSCO. Beni, Marcel Papimukeba, Radio Okapi.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
La MONUSCO n'apportera plus son appui logistique au FDLR. Martin Kobler l'a confirmé en répondant à une question posée à la conférence de presse hebdomadaire mercredi dernier à Kinshasa. Suivez la question et sa réponse.
Jean-Pierre, RTGA TV, une question à Martin Kobler. Le week-end, vous étiez également au camp Baouma à Kisangani. Vous y avez visité les ex-combattants et dépendants FDLR. Vous menacez de suspendre votre aide humanitaire d'ici la fin de la première quinzaine de septembre. Et du coup, je me pose des questions. Que deviendront ces ex-combattants et leurs dépendants? Y a-t-il de pourparlers en cours avec Kinshasa pour la relève? Êtes-vous conscient des conséquences que la suspension de cette aide pourrait avoir sur la ville?
Je n'ai pas menacé, j'ai annoncé. C'est une différence. Hein? Et la question, c'est beaucoup plus large que le camp Baouma. Ça concerne le soutien de la MONUSCO pour tous les ex-combattants dans toute la République. Ça concerne Kamina, Kitona, Baouma aussi, Kanyabayonga, Valongo. La MONUSCO soutient tous les camps de DDR ou DDRRR, comme camp Baouma. Ce sont 6800 ex-combattants qui sont là et c'est une responsabilité du gouvernement. Les camps ne sont pas gérés par la MONUSCO, non. Les camps sont gérés par le gouvernement. Mais la MONUSCO a assisté au gouvernement de les nourrir. La raison, on ne peut pas continuer dans tous les camps. On n'a pas d'argent. Ça nous coûte 2 millions de dollars par mois. C'est pas notre tâche, c'est pas notre obligation, c'est le gouvernement qui doit prendre charge. On doit arrêter parce qu'on n'a plus de moyens, on doit arrêter le soutien logistique pour tous ces camps. Alors, c'est pas une chose qui cible maintenant Camp Baouma, c'est une politique générale. On n'a plus d'argent pour faire ça.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Mon nom est Claude Boussé-Misambo, je suis marié, j'ai 2 enfants. Je travaille à la mission des Nations Unies au Congo, la MONUSCO, depuis l'année 2003. J'ai commencé comme journaliste, puis secrétaire de rédaction à Radio Okapi. Et depuis l'année 2007, je suis analyste d'information à GEMAC, une cellule d'études, de réflexions qu'on appelle Joint Mission Analysis Cell, GEMAC, qui est lié au bureau du représentant spécial du secrétaire général de l'ONU au Congo. Ce service, où je ne suis qu'un maillon d'une chaîne, mon travail consiste à recueillir les informations des différentes sources internes et externes, les journaux, les rapports, les évaluations, et nous produisons aussi des documents, des évaluations de ce que sont les risques et les menaces réelles ou potentielles à la paix et à la sécurité du pays et de la mission. Ce sont des données que nous fournissons à l'intention de l'équipe de direction de la mission et des différents chefs de section. Avant la MONUSCO, j'ai travaillé essentiellement comme journaliste dans la presse écrite, dans le journal satirique Le Grognon. Puis je suis allé à la télévision, à Antenne A, où j'étais journaliste présentateur. Puis j'ai fait les émissions religieuses catholiques Le Jour du Seigneur, produites par la Conférence des évêques du Congo. J'ai travaillé aussi à Radio Elikia, où j'ai produit et présenté des émissions de la maison d'édition Verbum Bible. Dans le secteur de l'enseignement, j'ai été secrétaire académique à l'Institut supérieur des sciences religieuses qui est lié à la province ecclésiastique de Kinshasa, c'est-à-dire nous recevions des étudiants des diocèses du Bas-Congo, du Bandundu et de Kinshasa. J'ai eu aussi à assurer des enseignements dans les domaines des communications sociales à l'Institut supérieur Saint-Pierre Canisius de Kinshasa et au Grand Séminaire Jean 23, ici à Kinshasa. Pour mes temps libres, j'aime la lecture essentiellement, mais j'arrive aussi à jouer au football tous les mercredis et à faire la marche les week-ends dans la matinée. Mais les meilleurs moments de la vie sont ceux que je passe en famille. Mes préférences, je dois d'abord dire que en tant que philosophe de formation de l'Université catholique du Congo et j'ai eu aussi une formation en journalisme de l'IFASIC, je suis éclectique et libéral. J'aime tout ce qui est beau et bien fait. C'est ainsi que je suis très critique en toute matière, donc éclectique. Pour ce qui concerne la nourriture, l'habillement, j'ai des appréciations ouvertes. Mes projets d'avenir, je n'ai pas de projet précis. Je suis donc ouvert à plusieurs types de projets. Mais l'essentiel pour moi, c'est de rendre service. Servir autant que je peux, tant que je le peux. Aider les autres à se réaliser, à comprendre, à agir, à aller plus loin. Donc, je peux participer ou je participe à plusieurs types de projets au même moment, mais l'essentiel, c'est d'aider à une meilleure compréhension des choses. Voilà pour l'essentiel. Et merci de nous avoir suivis.
Magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Kapi.
Sachez d'abord, aujourd'hui dimanche 29 août, la communauté internationale célèbre la journée internationale contre les essais nucléaires. Ensuite, le 5 septembre, la journée internationale de la charité. Et enfin, le 2 septembre, ouverture du procès CPI contre Bosco Ntaganda à la CPI à La Haye. C'est la fin de ce numéro des magazines des Nations Unies, coordonné par Jean-Pierre Elali Coco. Honoré Missenga a été au reportage, héritier Sidiakala à la technique et Nadine Foulantimba vous l'a présenté. Vous pouvez retrouver l'intégralité de l'émission sur www.radiocapi.net, le site des Radio Capi. Rendez-vous avec la même équipe et avec le même plaisir les dimanches prochains.